Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour assister à ce labo de l'édition. Ces élèves que vous voyez viennent de quatre lycées, c'est quatre lycées et cinq classes, le lycée des métiers Louis-Martin Brett, terminale section bac pro, l'école internationale PACA, la seconde, deux classes de première HLP du lycée Félix Esclangon. Et nous avons même des Dinois qui nous ont rejoints du lycée Alexandra Davinel, les premières SD2S. Et nous les remercions parce qu'avec leurs professeurs, ils ont réussi l'impossible, c'est-à-dire faire en moins de 3 semaines se mettre dans la peau d'un éditeur. On leur a confié, et là Benoît nous en parlera un petit peu après, 3 manuscrits. Ils se sont réunis en comité, comme un comité d'édition, et ils vont nous faire partager, est-ce qu'ils vont le publier? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est de l'improvisation. Nous avons un invité surprise, et je me permets de faire venir sur la scène Monsieur le maire Camille Galtier, président de la DELVEA.
Bonjour à tous. J'ai quitté une réunion juste pour vous saluer. Je suis très heureux qu'on puisse avoir cette jeunesse présente au rendez-vous. On a beaucoup l'habitude sur les correspondances d'avoir un public un peu plus âgé, d'avoir un public plutôt très jeune avec notamment les écoles de la ville qui viennent participer et les écoles de l'agglomération. Mais c'est vrai qu'on avait plus de mal à toucher les lycéens et je trouve ça plutôt pas mal de vous voir tous ici et d'avoir fait un jeu aussi. En 3 semaines, c'est quand même plus qu'ambitieux. Donc je me languis de voir un peu le résultat. Mais en tout cas, bravo à toutes et tous et surtout merci aux correspondances et à toute leur équipe d'intégrer cette médiation à l'ensemble des générations. Et je crois que dans une ville, c'est important qu'on puisse se réunir, quel que soit l'âge. Bonjour à mon prof de français, Monsieur Guidon. À chaque fois, je te salue. C'était mon prof de français à votre âge, donc vous voyez. Et donc, on avance. Merci à toutes et tous et travaillez bien. Merci, Nathanaël.
Merci beaucoup. Alors, les 3 manuscrits qui vous ont été confiés, vous ont été confiés par Benoît Verrille, éditeur de la Contre-Allée, et qui va peut-être nous parler un petit peu de sa maison d'édition. Et après, je vous dirai le déroulé exact de tout ce qui va se passer.
Merci. Merci beaucoup, c'est bien. J'en profite pour saluer Monsieur le maire, parce que c'est pas si courant de voir un élu se déplacer sur les manifestations culturelles comme ça, c'est bien, merci. Surtout pour parler de texte. Voilà. Pour une fois, ce sera une fois, mais c'est bien. Oui, alors, juste Benoît, pour la contre-allée, je vous remercie toutes et tous d'être là. Surtout toutes celles et ceux qui ont suivi ce stage intensif de 3 semaines pour devenir éditeur ou éditrice. Moi, après 16 ans, je suis toujours pétri de doutes sur ce que ça peut bien vouloir dire que d'être éditeur ou éditrice, ou en tout cas cette responsabilité des fois de dire oui ou non à un texte, parce qu'après il y a toujours cette question du pourquoi et comment y répondre, c'est vrai. Alors cette maison, elle a 16 ans, c'est ça, c'est à peu près, c'est beaucoup dans une vie, mais c'est, finalement à l'échelle d'une édition, c'est presque une maison ado en fait. Hein. Une maison qui travaille, vous êtes assis sur un journal, je pense, qui vous tient peut-être chaud, qui raconte 2-3 choses de la maison et notamment qui me fait un petit focus sur la rentrée. Et ça va vous permettre de voir qu'on parle beaucoup, nous, de littérature contemporaine dans ce catalogue. C'est l'essentiel du catalogue. Parfois, vous avez quelques textes du matrimoine littéraire, du patrimoine littéraire, mais qui viennent, parce qu'ils viennent éclairer finalement le travail qu'on va mener, nous, au quotidien, avec des auteurs et des autrices contemporaines. En littérature contemporaine française, ou de langue française, plus précisément, Et puis aussi pas mal de traductions dans cette maison. Pour parler de traduction, je pense qu'on en parlera un tout petit peu d'ailleurs pendant cette rencontre. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement, la traduction. Il y a un festival que nous portons, nous aussi. C'est pour ça que je saluais l'élu quand même, parce que c'est pas si facile d'avoir les élus sur des manifestations littéraires. Mais qui questionne ces enjeux de traduction et donc d'inclusion aussi parfois, ou en tout cas d'acceptation de la différence. Ça, ce sont des choses qui sont pour nous déterminantes dans les textes que l'on peut choisir, mais aussi dans les médiations, les rencontres qu'on essaie d'organiser autour de ces enjeux-là. Sur le genre des textes que l'on publie, il y a un petit moment maintenant que l'on ne mentionne plus sur les couvertures romans, récits, poésie, toutes ces choses-là qui finalement habitent la plupart des textes que nous éditons, ou plus précisément, la plupart des textes que nous recevons depuis maintenant 15-16 ans. Ces textes qui se sont, il me semble, largement émancipés de ces codes-là, et qui finalement ont aussi, au fil du temps, dessiné un petit peu quelle était la fonction de cette maison, parmi d'autres, d'accompagner ces textes qui ont peut-être une tendance, ou en tout cas le désir de s'émanciper de pas mal de codes, et puis de s'assumer comme ils sont, ou en tout cas de ramener quelque chose d'à peu près plus contemporain, hein, ou en tout cas quelque chose qui résonne avec la façon de vivre aujourd'hui. Donc il y a des critiques littéraires qui nous parlent de ce texte, et puis moi j'essaie surtout de coller à ce mouvement-là, avec toute une équipe quand même, parce que éditeur, c'est un grand mot, c'est surtout pas mal de personnes qui travaillent autour d'un texte. Pour qu'un texte existe, eh ben, nécessairement il faut l'écrire. Là, peut-être que la personne au départ est seule, mais ensuite, pour transformer ça en quelque chose qui s'appellerait un livre, et puis l'accompagnement de ce texte, alors là, de multiples personnes interviennent. Ça, on pourra tout à fait en discuter à la table du libraire qui est juste à côté, qui est notamment une personne assez déterminante dans le cours de notre existence, hein, pour le dire assez simplement. Est-ce que j'ai comblé le temps que j'avais à disposition ? Je ne sais pas.
Absolument parfait. Merci. Et surtout que là, le temps nous est compté. Donc, je vais vous expliquer brièvement, mais vos professeurs vous ont dû vous en parler. Donc, comment ça va se passer ? Tout d'abord, il va y avoir une petite présentation d'une de nos lectrices du Club des lecteurs. Puis, des lectures qui nous sont données par des élèves du lycée Esclangon. Pour vous donner un petit peu la teneur de ce manuscrit, car si les élèves l'ont lu, le public derrière, non. Puis, notre comédité d'édition nous fera partager leurs avis. Voilà, tous les lycéens sont réunis. Et à la suite, suivant leurs avis, Benoît nous donnera le verdict, c'est-à-dire est-ce qu'il va éditer, est-ce qu'il éditera en l'état, ou est-ce qu'il n'éditera pas. Voilà. Donc, nous avons pour cela une demi-heure pour chaque manuscrit. Mathieu est à la technique. J'en profite pour le remercier car c'est un habitué du labo. Et sans les techniciens, voilà, c'est grâce à eux que tout se passe bien. Merci. Et on commence. Jingle.
Alors, je vais vous parler de la fenêtre. L'autrice ou l'auteur nous réveille sur un épisode récent de notre histoire, sur ce qui s'est brisé, sur ce qui subsiste, l'attente, l'espoir. Le personnage principal est l'illustratrice, et la fenêtre, bien sûr. Elle a 38 ans, elle est sans travail depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, elle dessine des fenêtres de couleurs et colle dessus des mots découpés sur ce qui s'est brisé, sur ce qui subsiste, sur l'attente, l'altérité, la peur de l'autre, la fenêtre hors des gonds, l'absence, le deuil, rester intact, humainement partagé, et puis espérer une fenêtre qui reste ouverte toujours. C'est l'histoire du confinement, printemps 2020. Et puis, il y a elle. Elle travaillait dans une librairie, c'était son amie. Elle parlait musique, livres, recettes de cuisine, la vie, quoi. Elle a dû aller à l'hôpital. On lui a interdit de la voir. Elle attend son retour. Elle est obsédée par l'espace dont le corps a besoin. Et elle souffre du manque d'espace. Elle perçoit le masque comme un indicateur de l'espace dont chacun dispose et comme un indicateur de pouvoir. Son appartement se situe au fond du couloir. En vis-à-vis de la porte de sa voisine, il y a la fenêtre. Cette fenêtre, depuis toujours, elle restait ouverte. L'empreinte dans le mur existe. Elle est devenue l'objet d'un conflit, ouverte ou fermée, qui décide pourquoi. L'affrontement se met en place petit à petit. Depuis un an, elle s'enlise dans la solitude, sans dessin, sans magasin, sans un baiser, sans caresser une main. Elle est devant sa fenêtre, on est tous devant nos fenêtres. Elle voit une place carrée avec des cerisiers nus, sombres et secs depuis la pandémie. Elle se souvient, sa mère, sa grand-mère, des boucles d'oreilles accrochées à ses oreilles. Un couple d'adolescents est assis sur le banc. Ils se désirent sans se toucher. Il y a Instagram, bien sûr, Twitter, bien sûr, des photos pour se souvenir. Il sourit. Elle ne sourit pas. Les applaudissements de 20 heures vont-ils nous sauver? Vont-ils, elle, la sauver? Et puis un jour, elle redessine. Et puis un jour, elle remet de la musique. Deux personnes viennent de s'embrasser sur la place. Un baiser en plein FFP2. Il rit, elle rit aussi. Elle regarde à travers le judas. La porte est fermée. La fenêtre est ouverte, grande ouverte, à double battant. Elle sort. Le parc, le printemps est revenu.
Nous allons entendre maintenant des lectures de Émilie et Isabelle en espagnol, car La fenêtre est un manuscrit qui a d'abord été écrit en espagnol, et avec Leïna qui donnera la traduction en français. Nous les invitons donc à...
Ya no hay libélulas, tampoco hay abejas. Una avispa asiática puede matar entre 25 y 50 abejas al día. Ni mariposas blancas.
Il n'y a plus de libellules, il n'y a plus d'abeilles non plus. Un frelon asiatique peut tuer entre 25 et 50 abeilles par jour, lit-elle. Ni de papillons blancs.
Entró en la UCI en marzo, murió en mayo. Ella le escribía todos los 10 días que estuvo en casa, sabiendo que era positiva. Le escribía, podía leer su miedo entre líneas, antes de ir al hospital, antes de entrar en la UCI, le escribía. Y siguió escribiéndola todos los días, todo el tiempo que estuvo en la UCI. 35 días, contó los días, aunque no pudiera leer sus WhatsApp. Le escribía porque quería que los leyera, que despertara y los leyera. Se le llama esperanza, piensa. Proviene de esperar, piensa. Una espera vana, piensa.
Murió sola. Dejó solos a sus dos hijos. La dejó sola a ella, sola, solos y sola.
Elle avait été admise en service de réanimation en mars. Elle était morte en mai. Elle lui écrivait tous les jours. Pendant ses 10 jours d'isolement, sachant qu'elle avait été testée positive, elle lui écrivait. Elle pouvait lire sa peur entre les lignes. Avant d'entrer à l'hôpital, avant d'entrer en réanimation, elle lui écrivait et avait continué à lui écrire, chaque jour, tout le temps qu'elle avait séjourné en réanimation. 35 jours. Elle a compté les jours, même si elle ne pouvait pas lire ses messages sur WhatsApp. Elle lui écrivait parce qu'elle voulait qu'elle les lise, qu'elle se réveille et les lise. C'est ce qu'on nomme espérance, pense-t-elle. L'espérance a quelque chose à voir avec l'attente, pense-t-elle encore. Une attente vaine, se dit-elle. Elle était morte seule, elle avait laissé seule ses deux enfants, elle l'avait laissée, elle, seule, 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 seule.
El espacio. Mierda de espacio. Le gustaría no tener cuerpo. Mierda de cuerpo. Ser solo cerebro. Un cerebro dentro de un ordenador. Le gusta imaginárselo. Solo un cerebro dentro de un ordenador. Le sobra el cuerpo. Los cuerpos enferman, mueren. Le sobra el cuerpo. Antes, cuando nadaba, se sentía cómoda en su cuerpo.
Los brazos, las piernas, saltar de cabeza al agua, bracear, aletear. ¡Qué hermosas palabras! Bracear, aletear, batir, nadar, tener un cuerpo, ser solo un cerebro en un ordenador.
L'espace, putain d'espace. Elle aimerait ne pas avoir de corps, putain de corps. N'être qu'un cerveau, un cerveau dans un ordinateur. Elle aime imaginer un simple cerveau dans un ordinateur. Son corps est de trop. Le corps tombe malade, se détériore, meurt. Son corps est de trop. Avant, du temps où elle nageait, elle se sentait bien dans son corps. Ses bras, ses jambes, plongées dans l'eau. Nager la brasse, agiter les bras, quel joli mot. Nager la brasse, agiter les bras, battre les jambes. Nager, avoir un corps, n'être qu'un cerveau dans un ordinateur. Parfois, elle met de la musique, elle danse, elle ressent de nouveau, alors que son corps est accueillant. Pour un instant, un laps de temps très bref, elle se sent de nouveau bien dans son corps. Pour un instant, nous ne sommes que chimie, se dit-elle. Cette idée la tranquillise. Elle se dit, ce n'est qu'une question de chimie. Elle danse, ses endorphines se libèrent, elle danse, et pendant un laps de temps très bref, elle s'étourdit d'endorphines, s'enivre de son corps.
Alors, notre comité d'édition qui est sur scène pour le manuscrit La Fenêtre est composé d'Axel et Timéo du lycée professionnel Martin Brett. Charlotte de l'école internationale. Romain et Émilie du lycée Esclangon pour la première HLP 2 et HLP 3. Et Evana et Gabin pour le lycée Alexandra Davinel, classe de seconde. Qui veut commencer à donner son avis ? Le public a décidé, c'est Axel.
Oh, j'en ai marre, non.
Bon. Bonjour, nous allons vous parler de l'avis que nous nous sommes fait sur le tapuscrit La Fenêtre lu en classe. Cette lettre est à l'attention de l'auteur du tapuscrit La Fenêtre. Nous sommes des élèves de la terminale mécanique au lycée des métiers Louis-Martin Brett. Nous avons décidé de constituer un groupe de 10 élèves pour vous donner notre avis. Notre sincère avis sur votre œuvre La Fenêtre, que nous avons lue avec attention.
Pour commencer, nous aborderons les points négatifs que nous avons pu relever au fur et à mesure du texte. Nous avons trouvé que le texte, par sa longueur et sa difficulté, nous perd de plus en plus. On passe du présent au futur, au passé, sans être prévenu.
Il y a trop de feuilles.
La difficulté du texte se voit par d'incessantes répétitions qui, pour nous, les jeunes lecteurs, nous compliquent la compréhension de ce tapuscrit. On a trouvé une sorte d'incohérence au fur et à mesure des pages du fait que nous pensons que le personnage est dans un rêve. Puis un coma, une sorte de mort cérébrale. Nous avons enfin le fin mot de l'histoire sur la mort qui est directement par écrit. Je comprends rien. On se demande aussi si le personnage change au fur et à mesure des pages par le changement de ligne temporelle il passe de 7 ans à 42 ans, puis à 38 ans. Ce texte est d'une difficulté déconcertante. Il faudrait être une personne qui est plutôt un lecteur expérimenté.
T'as un peu oublié une phrase, mais c'est pas grave. Il faudrait faciliter la lecture pour que cela touche encore plus de lecteurs. Pour autant, nous souhaitons passer aux points positifs qui ne sont pas très nombreux malgré la densité du texte. Le changement d'ambiance, justement, a passé du passé au présent puis au futur est un gros point positif. Ça change assez souvent pour pouvoir amener à la découverte du monde et pouvoir se placer dans le texte. Le titre est compris qu'à la moitié du texte, mais nous n'avons pas tous vécu le confinement de la même manière. Le fait que la seule liberté que nous avions était la fenêtre, le fait de l'ouvrir était notre seule connexion à une sorte de liberté éphémère. Ce qui est intéressant est le fait de mélanger au texte des vérités que nous avions, les informations des décès, des contaminés, le jour, putain, etc. Pour conclure, ce texte est réservé à des personnes qui sont très expérimentées, ce qui limite la clientèle. Si vous voulez être publié, il faudra simplifier le texte pour que cela touche un public plus large. Bonne continuation et au plaisir de relire vos textes.
Qui veut continuer? Pareil, Émilie a été désignée.
Émilie traîtresse. Bonjour. Moi et Romain, on vient du lycée Félix Clesse-Langon. Donc on est dans deux classes différentes. Dans ma classe, donc on était le deuxième groupe de HLP. Dans ma classe, les personnes ont lu entre 15 et 20 pages de la fenêtre, et certains ont lu tout. On a réussi à trouver des points positifs et des points négatifs dans le texte. Et du coup, je vais vous les citer. Donc, déjà, on a trouvé que le sujet était intéressant parce qu'il pouvait aborder plusieurs thèmes, notamment le Covid, le deuil ou encore la solitude, et que c'était des thèmes qui étaient importants que c'était des thèmes importants à aborder, mais que certaines personnes aussi n'étaient pas forcément très ouvertes au fait de parler du Covid si tôt ou si tard. On a trouvé que que l'écriture du livre permettait de s'identifier parce qu'il n'y avait pas de prénom qui était cité et qu'on avait tous vécu le Covid, donc ça pouvait parler à tout le monde, même si on l'a tous vécu différemment. Certains ont trouvé la lecture fluide, à l'inverse d'autres. Il y a eu un point qui est revenu qui pour certains était positif et d'autres négatif, qui était la difficulté de se situer dans la lecture, de se situer dans le lieu, dans l'espace. Certains ont trouvé que c'était un avantage parce qu'on pouvait ressentir les sentiments que ressentait donc le personnage principal, c'est-à-dire qu'elle était perdue, qu'elle ne savait pas trop où elle en était, et un peu comme tout le monde pendant le confinement. Et d'autres ont trouvé que ce sentiment était trop présent et que ça rendait la lecture compliquée. Parmi les points négatifs, certains ont trouvé que le texte... certains ont trouvé des points négatifs dans le texte, mais personne n'a pensé les mêmes choses du texte, notamment en termes de négativité, on va dire. Mais parmi les choses qui sont ressorties, il y avait une structure qui était vague et des changements de thème sans transition qui faisaient qu'on ne savait pas trop où on était. Un texte qui, pour certains, paraissait monotone ou confus. Il y a eu aussi certains qui n'ont juste pas compris le texte dans sa globalité, sans raison particulière. Certains ont trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas de but ou d'objectif particulier à atteindre durant la lecture, qu'on n'ait pas une trame toute l'histoire qui nous dise à la fin on s'attend à découvrir telle chose ou à tel objectif, on va dire. Il y a aussi le fait qu'il y ait plusieurs L qui soient évoquées, donc toujours en lien avec le fait que le texte, il n'y ait pas de transition entre les différents moments. Donc des fois ça parlait d'elle et puis on passait au paragraphe d'après et ça parlait d'un autre elle et on se rendait compte plus tard que c'était pas la même personne. Du coup on se perdait assez vite sur qui était qui et qui faisait quoi. Parmi tout ce qui était un peu les points neutres, c'est assez tous mis d'accord sur le fait que soit on n'aimait pas ce texte. Ça dépendait des gens et ça dépendait du vécu de chacun. Et certains aussi, dans la classe, l'avaient lu en espagnol et ont préféré le lire en espagnol plutôt qu'en français. Elles n'ont pas su identifier si c'était par rapport à la forme du texte en elle-même ou par rapport à l'histoire concrètement, mais elles ont préféré lire en espagnol. Et du coup, pour notre avis final, on avait un avis assez divisé et vague. On ne savait pas trop si on était plus pour ou plus contre. Au final, on s'est mis d'accord sur une globalité plus positive sur ce texte. Et on s'est dit que s'il y avait une publication, plutôt en remodifiant certaines choses. Voilà.
Donc, cher éditeur, après avoir lu le tapuscrit de La Fenêtre, voici notre avis concernant une éventuelle publication. Donc le texte aborde le sujet du confinement avec une grande finesse. Le texte, il oscille entre les réflexions profondes liées à la solitude et des observations quotidiennes sur le monde extérieur, avec cette fenêtre justement. Nous avons trouvé que des passages comme ceux du masque montrent bien l'anxiété et la panique, ce qui apporte au texte une réflexion sociale qui ancre le texte encore plus dans la réalité de cette période. L'ensemble peut sembler trop introspectif et répétitif, mais nous avons souligné une lenteur narrative trop présente. Et l'atmosphère confinée est oppressante et pourrait être allégée à certains moments. En conclusion, nous pensons que La Fenêtre pourrait plaire à un certain lectorat prêt à se replonger dans cette période si particulière, mais nous resterons sur une publication contre modification de certains passages.
Merci Romain. Charlotte, Gabin. Bon, Charlotte.
Bonjour, je suis Charlotte du lycée international et je veux vous parler de La Fenêtre. Le manuscrit présente la vie d'une femme en proie à une profondeur introspection dans le contexte d'une pandémie où ses souvenirs et ses réflexions s'entrelacent avec ses expériences de confinement. Elle se trouve dans un appartement absorbé par ses pensées sur l'espace et le pouvoir, tout en étant hantée par l'absence de ceux qu'elle a perdus, notamment une amie qu'elle a vue mourir. La narration oscille entre des souvenirs de l'enfance, des réflexions sur son corps et son apparence à l'espace, son rapport à l'espace, et des expériences récentes de solitude et d'angoisse exacerbées par la pandémie. Elle revit des instants marquants de sa vie, comme le décès de son chien, ses années d'adolescence où elle se sentait bien dans son corps et ses interactions avec sa voisine, qui représentent à la fois une source de réconfort et une angoisse pour elle. Au fur et à mesure qu'elle décrit son quotidien, marqué par l'absence de travail et le bruit incessant des voisins, la femme ressent un profond besoin d'évasion, rêvant d'un monde sans corps et sans douleur. Les émotions se mêlent aux réflexions sur la fragilité de la vie, la souffrance liée à la mort de ses proches et la lutte contre la dépression qui l'envahit. Elle consigne des pensées dans des carnets, illustrant sa réalité en dessinant des fenêtres, symbole de l'évasion et de l'espoir, mais aussi de ce qui se brise. Ses rêves deviennent des expressions de sa peur et de son isolement. La narration souligne son conflit intérieur face à la nouvelle normalité post-pandémie, qu'elle rejette avec colère et désillusion, tout en continuant à espérer un relâchement des restrictions et un retour à la vie d'avant. Le manuscrit met en lumière la complexité des sentiments humains et des temps de crise, ainsi que la quête incessante d'une certaine forme de connexion et de réconfort dans un monde devenu étranger. On peut assez rapidement comprendre que ça se passe pendant le confinement. On a eu du mal à comprendre l'histoire, car les textes sont très courts il y a aussi beaucoup de va-et-vient et cela ne nous facilite pas vraiment la lecture. Le manuscrit nous a touchés car on a vécu nous-mêmes le confinement et on sait ce qu'elle a ressenti. Et du coup, grâce à ce manuscrit, nous avons pu voir comment d'autres personnes ont vécu le confinement. Nous, on était petits et ça nous a plu de passer toutes nos journées à ne pas faire grand-chose. On a vécu le confinement plutôt comme quelque chose de positif, mais alors qu'elle, c'est tout le contraire. Et si ça intéresse quelqu'un de lire comment les personnes ont vécu le confinement, nous le leur recommandons. Sinon, nous ne recommandons pas nécessairement l'édition de ce livre, car c'est assez compliqué de comprendre le texte.
Ivana et Gabin, vous vous lancez ?
Bonjour. Nous sommes en classe de première ST2S dans le lycée Alexandra Davinel. Nous n'avons eu que 2 heures pour discuter de ces 3 tapuscrits et nous n'avons lu que le début de chaque œuvre, environ 15 pages. Voilà. Tu peux le garder si tu veux.
Merci. Nous trouvons que le confinement, ça peut être un sujet intéressant et innovant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres et tout qui parlent de cette période que nous avons tous vécue. De plus, nous voyons plusieurs points de vue dans cette œuvre, ce qui peut aider à nous identifier, comme par exemple mettre les masques ou ne pas les mettre, rester enfermé ou sortir. Nous voyons que cette femme vit dans la peur constante et la seule chose qui lui fait sortir de sa peur et de sa dépression, c'est quand elle dessine sur la fenêtre. Et ça l'aide à oublier ses problèmes. Nous avons eu beaucoup de mal à comprendre le livre parce qu'il y a 2 L et on a du mal à comprendre qui est qui. Et nous pensons qu'il faudrait juste trouver une façon de différencier les personnages. Mais voilà.
Dans la classe, 12 personnes sur 24 ont décideraient d'éditer ce livre, soit la moitié. Donc, nous finirons sur cette citation, page 10, ligne 14 à 18. Espace et pouvoir sont étroitement liés. L'espace dont peut disposer chaque personne est proportionnel au pouvoir qu'elle détient. Le masque est un indicateur de l'espace dont dispose chaque personne. L'espace que chaque personne occupe sans porter de masque, c'est l'espace qui lui appartient.
Christiane, est-ce que tu l'éditerais ou pas ? Est-ce que tu veux donner ton avis ou on laisse le verdict à Benoît ?
Alors moi, je trouve que l'histoire se met en place dès les premières phrases du roman. Le lit, peut-être dans une chambre d'hôpital, un masque, un corps indéfini, une porte ouverte, une fenêtre fermée, puis ouverte, puis refermée brusquement. On glisse très facilement dans cette notion de rêve et de réel. Alors, c'est une écriture qui ne m'est pas familière parce qu'elle est moderne, contemporaine. Les mots défilent parfois en colonnes et le lien entre eux ne se fait pas de manière évidente. Mais peut-être pour évoquer des idées qui se bousculent, à ce moment-là, c'est réussi. J'ai été surprise par la répétition des mots, des phrases, voire des paragraphes, comme une impression de déjà-vu, déjà-lu, parfois. Je suis revenue sur quelques pages pour me rassurer, et cet effet en écho m'a plu. Les verbes ont retenu bien sûr mon attention, déclinés en 2 temps, imparfait, schlass, présent, le rêve, le réel, l'expression d'un traumatisme exprimé, je ne sais pas. Les descriptions de situations se succèdent sans réelle transition, mais ça fait corps avec le déroulement du manuscrit. L'écriture peut être symbolique, poétique, avec une amorce parfois d'écriture pseudographique, un peu en décalé. J'ai retenu une phrase, alors je la partage avec vous, je ne sais pas si elle vous plaira, mais c'est le bocal à poisson. Des fois, l'eau, elle est tellement trouble qu'elle t'empêche de voir. Alors, est-ce que je prendrais un risque en éditant ce manuscrit ? Je l'ai trouvé intéressant, innovant, singulier, fort et vrai, malgré ses fragilités. Alors, oui, je l'éditerai.
Alors, je n'ai pas tenu les comptes, moi. C'est plutôt favorable. C'est un texte de Isabelle Alba, effectivement, une autrice espagnole que l'on a déjà publiée à deux reprises. Une autrice qui, en général, remet toujours tout en cause à chaque ouvrage, notamment le registre qu'elle va employer, les scénarios qu'elle va utiliser pour sa narration systématiquement. Elle re-questionne tout ça. Elle est scénariste, Isabelle. Ça, c'est pour elle quelque chose de déterminant que de, s'il y a un texte à écrire, il y a cet enjeu de ne pas chercher à se répéter, en tout cas, de ne pas reproduire des recettes qu'elle a pu peut-être déjà utiliser. Ça, c'est une façon pour elle d'avancer dans son travail. Elle est chez nous toujours traduite par Michel Ortuneau. Pour Michel Ortuneau, eh bien, effectivement, tout ce qui s'est dit là, dans ces remarques sur le texte, c'est vrai. Quand on lit La Fenêtre, il y a nécessairement ces enjeux mémoriels qui apparaissent dans ce texte. Et donc, ce voyage dans le temps et parfois même simultanément dans la réflexion, mais ça, vous connaissez tous. Donc, cette histoire de retranscrire un petit peu ces sensations-là, eh bien, il y a un enjeu dans la traduction qui est assez complexe. Ensuite, ça a été pas mal souligné, c'est vrai, les enjeux sur le pronom. Eh bien oui, en espagnol, vous pourriez le dire, on est peut-être moins embêté avec ça. Chez nous, bon, en tout cas, chez nous, on a quelque chose qui réapparaît de manière peut-être des fois très présente. Et donc, il faut prendre un parti pris. C'est pour ça qu'on apprécie le travail de nous, de Michel Ortuneau, c'est que finalement, elle va faire un choix, elle va trancher dans une concertation avec l'autrice. Et puis là, vous avez un texte qui prend des accents un peu à la Duras. Et ça, c'est son parti pris à elle. Voilà. Isabelle Alba, vous en avez, si vous voulez feuilleter, il y a déjà deux ouvrages sur table là-bas. Et pour Michel Ortuneau, vous avez les textes traduits d'Isabelle et puis de Luisa Carnes, une autre autrice espagnole. On parlait de matrimoine littéraire tout à l'heure. Voilà. En fait, à chacun de ces textes, il y a des enjeux très, très forts dans la langue. Et ça donne vraiment quelque chose d'un défi quand même assez incroyable pour la traduction. Alors, au moment où vous avez lu le tapuscrit, vous avez eu une première génération du texte, c'est vrai. Je peux vous dire qu'il n'a pas fondamentalement changé, loin de là. Par contre, là où on a travaillé, c'est effectivement toujours essayer de trouver s'il y a l'opportunité de ramener un petit marqueur temporel, mais de manière la plus subtile, pour ne pas trop... pour ne pas trop gâcher ça, mais en tout cas essayer de donner quelques balises. Ce travail sur les pronoms, à chaque fois qu'on a pu en gommer, on l'a gommé. Maintenant, ce jeu de passage d'une personne à l'autre, grâce justement à la confusion proposée par les pronoms, ben finalement, c'est un parti pris, donc on le respecte aussi, ça. Et vous dire que, oui, on va le publier, ce texte. Vous allez le retrouver dans début d'année prochaine. Et tant pis pour les risques. Juste du coup remercier l'opportunité d'avoir pu entendre ce texte en lu dans sa VO. Alors pour la VO, pour les choix en VO et en VF, là, super, ça faisait plaisir à entendre ça. Mais enfin, pouvoir entendre le texte comme ça, c'est vraiment merveilleux, ça, je trouve. Et pour finir là-dessus, juste vous dire que c'est ces questions sur la traduction, elles sont là. Il y a une musique qui existe dans une langue. Comment on va renvoyer ça? Comment on va ramener ça chez nous? Finalement, comment on va reproduire quelque chose qui sera peut-être une autre musique? Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on entende une musique. Ça, c'est l'enjeu quand même.
Merci.
Donc, nous remercions encore tous les élèves qui ont été notre comité d'édition. Et nous allons faire monter sur la scène le comité d'édition qui concerne le deuxième manuscrit au pieu. Merci, merci. Donc, nous accueillons sur la scène un nouveau comité d'édition. Corentin Thomas du lycée Martin Brett. Voilà. Ouais. Francesco et Marco du lycée international.
C'est pas la même chose, non ?
Nina et Mathieu. Pour le lycée Esclangon, HLP 3 et HLP 2. Et Mathéo et Gabin pour le lycée Alexandra d'Avignil. Tout d'abord, Françoise va nous présenter brièvement le manuscrit avant que nous entendions notre comité d'édition et son verdict et quelques lectures.
Bonjour. Alors, ce texte a pour titre « Au pieu ». Parce qu'il se passe au lit. L'auteur fait un long monologue. Cette personne reste anonyme. Nous ne savons ni son genre, ni son âge. Elle ne se nomme pas. Elle ne donne pas la situation dans laquelle elle est, sauf que c'est quelqu'un qui est au lit et qui est très gêné par les miettes des repas précédents qui ont dû être pris au lit. Donc, on est dans la fiction, mais il n'y a pas d'histoire, donc je n'ai pas de déroulé à vous raconter. Par contre, ce texte est original, puisque la vie sera donnée plus tard, par la manière dont il transgresse, comme le disait Benoît tout à l'heure, les codes. Et par là, je pense qu'il n'a pas été choisi pour rien. Les codes qu'il transgresse, ce sont surtout des codes d'écriture. On répond tout le temps à la même question. Est-ce que je me lève ? Pourquoi je me lève ? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Finalement, le monde autour de moi, c'est une espèce de grand trou. Mais je vais faire face, je vais me tenir droit et je vais y aller. Y aller où ? On ne sait pas, mais on y va. Donc l'originalité de ce texte est surtout dans la manière, j'ai envie de dire, l'architecture de l'écriture. Ce ne sont pas des phrases, ce sont de toutes petites phrases qui sont présentées presque en colonne, avec de temps en temps un seul mot. Il n'y a pas toujours un verbe, il n'y a pas toujours un sujet, mais il y a toujours une logique qui fait que derrière une ligne, il y en a une autre, jusqu'à la fin. L'auteur cherche aussi quand même certainement à s'amuser et c'est un peu canulardesque à certains moments avec la manière dont il dispose sur une page entière. Une phrase occupe toute la page avec 10 ou 15 centimètres entre chaque ligne ou même entre chaque lettre. Il y a des pages où le texte est écrit en petits carrés qui forment des dessins. Donc, c'est un texte qui se lit presque plutôt pour les yeux que pour la tête.
Merci, Françoise. Nous allons maintenant écouter quelques extraits par Tahira et Michaela.
Tenir. Tenir quand même droit.
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 Droit dans ses docks aux semelles élimées, ventre rentré, face serrée, tête levée. Racine pendante s'agrippe pour exister.
Les temps s'enflamment. Neige de feu consomme ce qui reste. les étalages toujours pleins des supermarchés, l'abondance.
Dégoûtante.
Rassurante.
Écœurante. Dans les allées, toujours, partout en vérité. Téléphone à la main, même sur Instagram. Un autre, encore un autre, et un autre, et puis un autre. Ça ne s'arrête pas.
Téléphone déchargé. On dégaine la batterie externe. On scrolle, cerveau branché.
Les reels roulent, s'enroulent autour de Cyprès. C'est triste parfois.
C'est nul souvent.
C'est drôle parfois.
Rire court, aboiement sans joie, sombre dans la mer de scroll.
Convulsion anédonique, mer de vie, nuit noyée, dopamine saturée. Ne pas se laisser noyer, ne pas se laisser sombrer. Tenir, tenir fort. Tête droite, ventre entré, fesses serrées contre le vent acide.
Le vent qui pique, pique, pique. Remue l'ennui, partout terré, trop vite,
trop vide. Les graines pourrissent dans le coton mouillé. Celui des haricots et des fèves et des pois chiches qu'on nous faisait faire pousser à l'école dans ces petits gobelets.
C'est trop petit pour Cyprès.
Ennui, envie, désir faussaire, doigt contre sexe. Frotter, frotter, frotter encore. Contraction anédonique.
Le corps convulse puis se tient droit, roide comme un mort.
Deux trous rouges au côté droit.
Immobile à jamais, il ne marche plus.
Il n'est pas tout à fait mort. L'espoir subsiste encore. Il pourrait commander à ses muscles quelque chose, mais le désir se terre. Enfermé à l'intérieur, dans la poitrine encore tiède pour quelque temps. On ne sait pas trop pour combien de temps encore.
Juste un point serré. Un point d'honneur, on dit, à essayer. De vivre, de survivre, de ne pas se laisser tomber. Et pourtant, malgré tous les cafés, le corps roide reste recroquevillé.
Tenir petite graine ballottée par les vents. Traîner de rive en rive. Petit poussé rêveur. L'allégorie ne vaut rien. Rien ne tient. Tous ces tioles en miettes qui grattent pendant la nuit. Pendant l'insomnie, quand on regrette de les avoir semés.
Qui veut commencer parmi le comité d'édition ? Donc Mathieu, lycéen Langon, section HLP.
Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Mathieu Messien, je suis éditeur à la Contre-Allée depuis maintenant 12 ans et dans le cadre des correspondances, je vais venir vous lire une lettre qui m'a été demandée de lire à une réponse que j'ai faite à une autrice qui m'a envoyé l'un de ses manuscrits. Alors, chère autrice, nous avons pris connaissance de votre tapuscrit au Pieu. Nous avons été très touchés par ce tapuscrit où votre plume libres et uniques, sachant plier les mots à votre guise pour nous faire ressentir une émotion que seule la poésie peut nous faire voir. L'originalité de votre manuscrit mêlant poésie et récit narratif qui nous a fait découvrir, redécouvrir, des genres pensés inchangés jusqu'alors. Une fin qui nous permet de s'approprier votre histoire en devenant la nôtre. La prise de risque que constitue votre œuvre est un défi que nous acceptons en publiant au Pieu. Nous sommes sûrs qu'il plaira à un public avide de nouveaux textes poétiques hors normes. Merci à vous.
Bonjour.
Nina.
Bonjour, je m'appelle Nina et je vais vous faire un retour sous forme de lettre au nom de ma classe. Monsieur l'éditeur, suite à la lecture de votre tapuscrit, les retours des élèves sont mitigés quant à la publication de celui-ci. Tout d'abord, la mise en page du tapuscrit est très, voire trop originale pour nous, ou pour certains d'entre nous. Ça a un effet assez lassant et désorientant dans l'histoire. L'histoire en elle-même est très immersive et captivante. L'auteur transmet bien les émotions, mais le vocabulaire et les métaphores sont parfois trop compliqués ou trop lourdes. Par ailleurs, le roman n'est pas structuré, il n'y a ni chapitre, ni partie du début à la fin. Le titre, quant à lui, capte l'attention du lecteur. Pour conclure, la classe est divisée. Nous ne sommes pas convaincus en totalité par la publication du tapuscrit. Merci de votre écoute.
Donc, c'est Corentin et Thomas qui vont... Donc d'abord, Corentin.
À l'attention de l'auteur du tapuscrit au Pieu, la classe de terminale bac mécanique automoto du lycée Louis-Martin-Bray a lu votre tapuscrit et nous avons décidé de vous donner notre avis et notre ressenti. Pour nous, l'histoire opieux nous a partagé sur différents points. Pour commencer, nous avons trouvé que votre titre définissait bien votre texte, car cela nous fait penser à nos idées que l'on a avant de dormir dans notre pieu, partant dans tous les sens. Les points positifs que nous avons révélés sont la mise en page qui est originale et intéressante, cela donne envie de découvrir votre œuvre. Nous avons apprécié les rimes que vous nous avez proposées, cependant, les points négatifs seraient les suivants.
Alors, nous avons trouvé qu'il y avait trop de mots non sensés qui n'ont pas forcément de rapport entre eux de façon évidente. Aussi, on se perd vite dans le texte. Il n'y aurait pas de transition entre vos sujets de paragraphes. On aurait l'impression que vous passerez du coq à l'âne. Nous n'arrivons pas à trouver un réel sens. Trop de mots qui se répètent sans savoir pourquoi. Après étude de votre texte, nous allons répondre à la question de la publication de ce tapuscrit. Nous vous conseillons de ne pas le publier car cela touche un cercle trop restreint de lecteurs qui, eux, comprendront peut-être le texte comparé à un plus large public. Nous espérons que vous prendrez le temps de nous lire comme nous l'avons fait et que vous tiendrez compte de nos remarques. Nous espérons que vous ne serez pas vexés.
Qui veut se lancer ? Nos amis de Digne, Mathéo et Gabin ?
Alors bonjour à tous, je m'appelle Gabin et lui c'est Mathéo, on est des élèves de ST2S et aujourd'hui on va vous parler d'un papuscrit du nom de Opieux.
Alors on va commencer par un petit résumé. Opieux, c'est un texte assez original qui résume la fille, qui résume la vie d'en pense une jeune femme qui sans vouloir sortir de son lit explique sa vie au quotidien. C'est un texte auquel on peut se référer, un texte expliquant sa routine de tous les jours.
Maintenant que vous savez de quoi parle Opieux, on va donner l'avis de notre classe et le nôtre. Je vais commencer avec les points négatifs et Mathéo fera les positifs. Je vais commencer directement en vous disant qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Pour commencer, on a trouvé Opieux assez répétitif et qui dit répétitif dit souvent ennuyeux. Cette histoire parle de... Au final, il n'y en a pas vraiment. C'est plus un quotidien ou une routine. Le texte n'est pas toujours compréhensible. Il y a certains moments du texte où tu te demandes où l'auteur veut en venir. Et je ne vais pas vous mentir qu'avec Mathéo, on se demande encore où l'auteur veut en venir à certains moments. Pour finir, le public visé sont les adolescents ou adultes, car il y a certaines scènes intimes. Et même si on enlève ces scènes intimes-là, la classe a pensé qu'un enfant ne va pas vraiment aimer ce genre de texte, déjà par la complicité. Et ensuite, ce n'est pas vraiment passionnant. Il n'y a pas vraiment de grandes actions.
Pour les points positifs, c'est un texte quand même assez original, qui a une forme très poétique. Il porte une écriture très réaliste et qui représente très bien le quotidien. Il a un aspect redondant, très plaisant, un peu comme le rythme d'une musique.
Et la citation ?
Et comme citation, on a choisi tenir quand même, droit dans ses docks, aux semelles et limées, ventre rentré, fesses serrées, tête levée, racine pendante et sa grippe pour exister.
Bon, l'école. École internationale, Francesco et Marco.
Bonjour, du coup, on est des élèves de seconde à l'école internationale. Alors, déjà, moi, je ne m'appelle pas Marco, je m'appelle Alessandro. C'est juste que Marco, il n'a pas osé venir. En plus, il est dans le public aujourd'hui, donc voilà. Je voulais juste pas laisser mon ami tout seul. Donc aujourd'hui, merci. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler du tapuscrit Opieux. Donc le tapuscrit présente une histoire à la fois singulière et introspective, centrée sur une femme qui narre son quotidien, ses pensées et ses angoisses. L'une des caractéristiques principales du récit est sa focalisation sur ses mauvaises habitudes, telles que la consommation excessive de café, de cigarettes, ainsi que son mode de vie désorganisé. Elle mène une existence marquée par un rythme de vie décalé, une alimentation déséquilibrée. Ce comportement devient rapidement répétitif et le récit semble suivre une structure quasi obsessionnelle, où ses aspects de son quotidien reviennent inlassablement.
Nous pensons que l'intrigue n'est pas si claire. Certaines personnes sont arrivées à comprendre et d'autres élèves se sont perdues à cause du manque d'une histoire concrète. Nous sommes rentrés facilement dans la lecture grâce à la transparence du récit. Ce livre peut être un miroir pour certaines personnes. La mise en page est particulière. Cela nous fait penser à une poésie écrite en prose. Entre les trois manuscrits, on peut conseiller celui-là, vu qu'il est facile à lire et il est très court. Par contre, les avis sont mitigés sur le fait d'être édité ou pas.
Françoise, est-ce que tu veux nous dire si tu l'éditerais ou pas ton...
Alors, moi, je suis très séduite par la transgression. Je pense que vous l'avez entendu dans ma présentation. Autant la transgression de l'écriture que celle du mode de vie, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très fréquent que la principale réflexion se passe comme ça au réveil, assis dans son lit avec le café et les tartines. Pour autant, très honnêtement, j'ai trouvé de temps en temps des longueurs, pour ne pas dire des tunnels, et je trouve que ce texte est à la fois un peu fastidieux à certains moments, et à certains moments un peu trop facile. Tous les petits dessins d'écriture, on en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. Je me permettrai donc, si j'étais éditeur, de dire à l'auteur ou à l'autrice, au lieu de 80 pages, faisant 25, ça sera extrêmement fort et on trouverait sa place dans une sorte d'anthologie de la poésie très contemporaine, parce que vraiment, c'est un texte de poésie et la poésie, c'est important.
Benoît.
Il cogne, hein, le comité, là. Merci. Encore une fois, merci pour les lectures, parce que définitivement, c'est aussi, quand on parle de littérature, je pense qu'on parle surtout d'entendre le texte aussi. Hein. C'est un texte, un premier texte, enfin pas tout à fait un premier texte, parce que cette autrice a déjà publié un court texte aux éditions, 10 pages au carré. Selima Atala Chetaoui. Il faut retenir ce nom parce que moi, je pense qu'on va pas mal en entendre parler quand même. C'est quelqu'un qui... C'est un texte qui questionne les enjeux de troubles du comportement. Voilà. Quelque chose qui correspond à cette hyperactivité et finalement qui empêche. Et tout se passe dans ce lit, effectivement. Autant toutes les bonnes résolutions vont tomber les unes après les autres que toutes les tentatives aussi pour essayer d'avancer sont convoqués sur ce rendez-vous. Donc on a un texte effectivement circulaire avec pas mal de répétitions, de tentatives, de déplacements. La mise en page, on a beaucoup parlé de mise en page. C'est, en plus, vous avez regardé et observé le tapuscrit. Sachez que quand on édite ce genre de texte, il y a un enjeu assez fatal des fois par rapport à un tapuscrit, c'est que le format du tapuscrit ne correspond pas nécessairement au format de l'édition. Vous voyez ? Et dans l'édition de forme poétique, eh bien... Là où on peut voir beaucoup de blancs, ces blancs ont beaucoup de signifiants. Et puis on peut aussi, des fois, martyriser sérieusement le texte en forçant, finalement, la mise en page, hein, vous voyez. Donc c'est toujours un enjeu, ensuite, de re-questionner cette composition, quasiment presque une partition, avec l'autrice ou l'auteur pour en arriver à quelque chose de cohérent par rapport à sa proposition. C'est vraiment terrible, ça, des fois, pour les textes. Alors, pour le sujet, parce que c'est... C'est un sujet qui touche pas mal de monde, on l'entend des fois. Et parce que c'est un sujet qu'on questionne souvent, la santé, le soin, ça c'est quelque chose de très présent dans le catalogue de la maison. Cette approche, alors naturellement c'est vrai, on peut questionner ces histoires de longueur des fois. On les questionne toujours. Le dernier, chez nous en gros concrètement, le dernier mot c'est l'auteur ou l'autrice qu'il a parce que on a des remarques à formuler, certainement, à partir de l'instant où on tombe d'accord avec l'auteur ou l'autrice sur le fait d'avoir a priori bien cerné les enjeux du texte, en tout cas les enjeux que cette personne voulait soulever à travers ce texte. Et donc, on se permet de l'accompagner dans une conversation, parce que c'est une conversation que d'essayer de pousser le texte à un endroit. C'est la destination souhaitée par l'auteur ou l'autrice. Et ensuite, c'est elle qui va décider de préserver ou non certaines choses, finalement. Ça nous semble beaucoup plus important. A priori, c'est quand même son œuvre. Alors nous, on va publier ce texte, mais avec un grand, grand oui.
Il y a 1000 façons de recevoir des textes, hein, vous savez, enfin 1000, en tout cas plusieurs. Nous, on reçoit entre 5 et 10 tapuscrits jour par mail. Et ensuite, parallèlement à ça, on accompagne beaucoup de lectures publiques, on observe des gens, on essaye de suivre les scènes ouvertes. Et Selima, c'est une personne que nous avions identifiée par rapport à un travail mené, par rapport à les lectures publiques qu'elle était capable de produire. Et par l'écoute de certains extraits de ce texte-là dont on vient de parler, qui, moi, m'ont interpellé. Et donc, on s'est approché d'elle en lui demandant d'avancer sur ce texte, de voir comment les choses pouvaient prendre forme. Donc, ce ne sera pas tout à fait sa première publication, mais on est au début d'une histoire, en tout cas, pour ce qui est de l'ordre de l'imprimé, parce que c'est quelqu'un qui a déjà une belle vie sur scène. Oui. Voilà, donc, on parle de poésie, oui, on parle surtout d'une langue très libre, et donc naturellement d'une narration libre, et formellement, ça l'est nécessairement. Comment voulez-vous formater davantage un texte qui questionne le trouble de comportement? Vous voyez, c'est un truc. C'est plutôt à nous de nous conformer et d'essayer de nous déplacer vers ce texte. Donc celui-ci, vous le verrez au catalogue en février-mars de l'année prochaine. Ouais, ouais. Ah! C'est toujours un moment, juste un mot quand même pour finir, pour répondre là-dessus sur l'histoire de toucher plus de monde ou pas plus de monde. C'est forcément une question que l'on se pose, mais c'est une question qu'on essaye d'évacuer le plus vite possible et plutôt de se poser cette question à un autre endroit. C'est comment on va pouvoir l'accompagner pour aller vers le plus de monde. Il y a nécessairement déjà un premier cercle de lecteurs et de lectrices pour ce texte. C'est à nous de travailler cette rencontre-là. Ensuite, le bouche à oreille fera son travail. Comme... Pardon, mais je pensais tout à l'heure une phrase qui, moi, a été importante, c'est cette histoire de confinement. Est-ce que c'était trop tôt ou trop tard de publier un texte sur le confinement? C'est une vraie question pour moi en tant qu'éditeur et sur une maison d'édition. J'y arrive. Mais est-ce qu'il est trop tôt ou trop tard pour parler d'un confinement? En tout cas, s'appuyer sur un confinement pour soulever les questions de cette autrice qui est Isabelle Allois. Ça, je sais que pendant des mois et des mois, j'ai botté tous ces textes en touche. Et finalement, j'étais assez heureux de voir un texte sur ce sujet arriver de la part de quelqu'un que nous avions déjà édité. Ça m'a permis de répondre à cette question, vous voyez. Ça m'a aidé des fois. Voilà.
On remercie notre comité. Mais après, tu pourras revenir. Hein. Une fois qu'on a fini les trois manuscrits, tu as un temps de... Voilà. Ouais. James et Dieu.
Malheureusement.
Non, non, mais super. Heureusement pour nous. Donc, dernier tapuscrit transatlantique avec Françoise Broyard et comme comité d'édition Elliot et Jamis pour le lycée Martin Brett, Héloïse pour le lycée international, Léa et Clément pour le lycée Esclangon, Léa, Clément et Laureline, c'est ça, vous êtes trois? Parfait. Et Kylian et Jules pour le lycée Alexandra Davinel de Digne. Oh ben si, mais oui, c'est vrai, pourquoi vous applaudissez pas? Il a raison, l'éditeur. Donc nous allons écouter une brève présentation de ce manuscrit par Françoise, et après, des lectures.
À l'aéroport, ils sont quatre. Arlie, Joe, Louise et Alex, qui se préparent à franchir l'Atlantique, destination New York. Le texte cultive le flou des identités. Pour l'ensemble de la troupe, c'est Yels, I-E-L-S, et non pas il ou elle au singulier comme au pluriel. Flou des identités.
Un personnage central, le narrateur, par contre, vit une quête plus forte, plus immédiate. 28 ans, en transition, avec lui, nous faisons la traversée de l'océan, à l'écoute de ses souvenirs et de ses doutes, mais aussi de sa détermination. Nous suivons Alex et ses amis, le vol vers New York, la découverte des communautés queer, les bars, la musique, la danse, la plage, les amitiés fortes, les rencontres improbables, mais également, mêlant passé, présent, des consultations médicales, des rendez-vous, l'hôpital, jusqu'à la conclusion de ce séjour peu ordinaire.
Lilou et sa camarade vont nous lire des extraits de ce texte.
Le docteur Girard est endocrinologue à Paris. Elle est accréditée, comme tous les médecins de sa profession, à prescrire de la testostérone. Et, comme la plupart des autres, elle demande pour se faire une attestation de psychiatre. La transidentité est encore largement considérée comme un trouble mental dans le monde médical et répertoriée comme telle dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM, et dans la classification internationale des maladies, CIM. Cette pathologisation irrigue les parcours trans et la plupart des endocrinologues exigent le diagnostic d'un psychiatre comme condition d'accès aux hormones. J'aurais pu passer outre, prendre le temps de chercher un spécialiste qui accepte de déroger à cet usage, mais j'ai voulu aller vite. J'ai fait des examens, trouvé un psychiatre qui, à une séance, m'a signé une attestation de syndrome transidentitaire et pris rendez-vous dans la foulée avec une endocrinologue. Ce que je n'avais pas imaginé pour cette dernière étape d'accès à la testo, c'est qu'elle aussi voudrait jouer au psy.
Le docteur Girard attend. Tout mon corps refuse l'exercice, mais je me lance quand même. Et bien voilà, depuis très jeune, j'ai toujours eu le sentiment d'être un garçon. J'ai mis longtemps à l'accepter et à le dire, ça a été des années difficiles. Je me sentais mal dans mon corps, mais maintenant, tout mon entourage est au courant, y compris à mon travail. Et moi, je le vis bien, à part que j'ai besoin de prendre des hormones pour être en adéquation avec comment je me perçois. Je fais une pause pour donner une touche de réalisme à ce poème autobiographique. Je n'ai jamais aimé mon corps, je me sentais un enfant différent, je m'identifiais aux hommes. C'est ce même récit que j'ai inventé pour le psy à base de stéréotypes attendus. Je pourrais lui raconter la vérité sur mon parcours pour bousculer ses idées reçues, mais j'ai abdiqué depuis un moment de batailler individuellement contre les médecins, en délivrant un récit minimaliste de ce qu'ils veulent entendre. J'obtiens les papiers et je garde mon énergie pour la lutte collective. C'est ma stratégie jusqu'à là. Docteur Girard profite du blanc dans la conversation pour me relancer.
Comment l'ont pris vos parents ?
Difficilement au début, mais ça va mieux maintenant, et ils me soutiennent.
Et vous avez des frères et sœurs ?
Un frère.
Et comment l'a-t-il pris ?
Pareil que mes parents.
Et de votre côté, est-ce que vous avez fait une dépression à cause de ça ?
Je réponds évasif. Non, je ne crois pas. J'ai été mal pendant un temps, mais pas de dépression. Je pourrais lui dire, vous savez, le moteur de ma transition, ça a plutôt été la joie. Mais je sais trop bien le récit qui est attendu de moi. Il faut qu'il y ait un minimum de difficultés, de mal-être, de souffrance, sans déborder pour autant sur des difficultés en termes de santé mentale. Sinon, les endocrinologues ne prescrivent pas d'hormones. En bref, il faut avoir souffert, mais à juste dose. La docteure Girard insiste.
Pas d'autres problèmes d'épisodes dépressifs ?
Non.
Bien, je vais vous examiner.
Elle se lève. Je la suis derrière son bureau. Elle me mesure, 1m62. Elle me pèse, 62 kilos. Elle prend ma tension, 12,8. Elle me fait respirer fort et tousser en posant le stéthoscope sur mon dos. Puis elle place ses mains sur ma gorge.
Laissez-moi voir. Ah oui, il va falloir vous faire une échographie. Vous avez un petit goitre, je pense. Je suis désolée mais de vous dire ça, mais c'est typiquement féminin.
Je la laisse terminer sa chorégraphie médicale autour de mon corps en m'absentant de moi-même. Je reviens quand elle annonce que je peux me rasseoir. Je m'installe sur la chaise. Elle retourne à son bureau et me fixe avec surprise, comme si je venais de lui apparaître.
Vous avez du mascara ?
Pardon ?
Vous avez du mascara sur les yeux ?
Non.
Ah, vous avez juste de longs cils.
Elle a l'air soulagée. Je suis sidérée par son attitude. Une forme de condescendance m'envahit. Je m'y laisse aller pour éviter de me confronter à la violence de son examen.
«
Bon, alors le public a encore choisi. Ça va être Elliot et Jamis qui vont commencer. Donc finalement, Jamis.
Cher auteur, nous sommes la classe de terminale maintenance des véhicules du lycée Martin Brett. À la suite de notre lecture de votre manuscrit, nous voudrions partager notre avis avec vous. Nous pensons que cette œuvre n'est pas faite pour tout type de lecteur, car le sujet peut être choquant pour les plus jeunes. Le thème est d'actualité, mais parfois, selon le public, il peut être clivant.
La lecture est compliquée car la transition linguistique entre le français et l'anglais se fait de manière inattendue, mais nous avons aimé le courage du personnage principal car Yael ose affirmer sa transsexualité et par la même occasion peut aider certains jeunes dans leur transition. Les dialogues étaient bienvenus pour l'immersion dans le quotidien du personnage, pourtant nous pensons que c'est une mauvaise idée de l'éditer pour un public adolescent, mais pour des lecteurs plus avertis et sensibles à ce sujet, ce serait une bonne idée. Nous considérons que cette histoire peut être intéressante. Nous avons apprécié de travailler sur votre tapuscrit. Il reste malgré tout intéressant et nous vous remercions pour votre écoute.
Est-ce que le lycée Esclangon veut se lancer ?
On peut garder le meilleur pour la fin.
D'accord. Allez, donnez-leur tort, digne. Kylian et Jules, je vous en prie, dites-nous votre avis.
Ben, donc, c'est un sujet qui a fait grand débat dans notre classe. Ça a été le plus discuté. Et donc, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un sujet important et d'autres qui pensent que c'est justement inutile parce qu'on en parle trop. Il y en a qui pensent que c'est ça. Voilà.
Donc, bonjour à tous. Pour continuer sur ce qu'a dit Kylian, on pense que l'auteur aimerait en effet nous faire passer un message qui dénoncerait les intolérances et ou peut-être aussi les jugements trop faciles. On pense aussi que cet ouvrage peut aider certaines personnes à passer le cap et briser les tabous. Donc je vais répéter un peu ce qu'a dit Kylian, mais dans notre classe de 24 élèves, la moitié de ceux-ci déciderait de publier cette œuvre. Et la moitié ne la publierait pas. Et il y a en effet des avis très divers. En classe, on a notamment pu étudier le passage du personnage principal et du médecin, qui a également fait beaucoup réagir, car cela nous montre que le médecin évoque une certaine incompréhension envers les personnes, envers le personnage principal, et ne comprend pas forcément la souffrance de ces personnages-là. Pour finir, je vais vous laisser avec deux citations. Oui, mission de ce soir, se faire payer des coups, lance Joe en récupérant la dernière tournée. Bien après, il y a des effets indésirables, comme l'acné qui peuvent survenir. Vous allez sans doute perdre du poids, ce qui augmente les risques cardiaques. Mais ça va, vous n'êtes pas trop grosse, vous faites du sport.
Est-ce que Héloïse de l'école internationale va intervenir ?
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis Héloïse en seconde 1 dans l'école internationale EIPACA. Donc, l'histoire se déroule de nos jours. Une femme décide de devenir un homme. Nous allons suivre son parcours. En effet, elle ressent ce besoin de changer depuis l'âge de 10 ans. Pour cela, elle prend l'avion en direction de New York, accompagnée de 3 amis. Ce roman laisse penser que l'auteur l'a écrit pour déconstruire les préjugés liés à la transsexualité et montrer que c'est aujourd'hui encore un parcours douloureux. Dans un passage du roman, lors d'un rendez-vous médical, le docteur Girard a des propos déplacés et, au moment où le personnage principal refuse de se faire examiner, celui-ci ne comprend pas. Beaucoup de mes camarades sont facilement rentrés dans l'histoire, car la transsexualité est un sujet actuel et qui concerne beaucoup de monde. Ce livre nous montre la réalité de l'environnement des transsexuels et de la communauté LGBT. Mais, même si la transsexualité est le sujet principal du roman et est très présent, nous retrouvons des moments de joie et d'amitié, comme lorsque les 3 amis se livrent à une bataille d'oreiller pendant qu'un autre prépare le petit déjeuner.
Nous pensons que ce livre pourrait être intéressant pour une personne qui aspire à devenir transsexuelle. Il permet également de sensibiliser les personnes et leur faire découvrir une autre vision du monde. Et pour finir, nous pensions que le titre « Transatlantique » est bien choisi, car il raconte l'histoire d'une personne transsexuelle qui se rend à New York et qui pour cela traverse l'océan Atlantique en avion. Nous serons plutôt favorables à son édition.
Donc nous allons écouter Laureline, HMP 2, lycée Esclandon.
Alors bonjour, nous on a décidé de faire une lettre adressée à l'auteur où on donne notre avis et de base c'était comme si on se mettait à votre place à vous. Donc voilà ce qu'on a écrit. Cher auteur, après avoir pris le temps de lire attentivement les 15 premières pages de votre tapuscrit intitulé Transatlantique, nous souhaitons vous faire part de notre retour. Après avoir lu ces pages avec attention, nous avons décidé de ne pas proposer sa publication en l'état. Ce choix ne repose pas sur une absence de fond ou d'intérêt dans votre texte, mais plutôt sur des points spécifiques qui, selon nous, nécessiteraient quelques ajustements pour atteindre une qualité de forme et de lisibilité plus adéquate. Nous avons perçu à travers votre œuvre une véritable intention, un engagement personnel et une implication sincère. Cependant, ce qui nous a manqué de manière plus explicite est un accès plus rapide à l'histoire. Le sujet que vous abordez est non seulement pertinent, mais aussi intéressant et mérite d'être porté à la connaissance d'un large public. Or, certains choix de vocabulaire, comme l'usage du terme « yel », risquent de ne pas être compris par tout le monde. Il aurait été peut-être judicieux d'introduire votre texte par une explication de votre démarche, en clarifiant ce que vous cherchez à transmettre et en définissant les termes moins connus, de manière à faciliter la compréhension pour tous. Un autre point à revoir concerne la structure narrative. Nous avons eu des difficultés à situer certains personnages et cela a rendu la lecture moins fluide. Au début, il n'était pas clair si vous abordiez la question de transidentité ou de l'identité non-binaire. On sent que le sujet vous tient à cœur, mais à certains moments, cela semblait trop dense, peut-être trop complexe à assimiler d'un seul coup. Par exemple, vos énumérations de personnages issus de diverses minorités semblaient vouloir banaliser ces identités, mais cela peut perdre une partie du lectorat, notamment ceux qui ne sont pas familiers avec ces questions. En revanche, nous avons trouvé très intéressante l'idée de combiner poésie et texte narratif. Les deux premières pages étaient particulièrement bien écrites et donnaient envie de poursuivre la lecture. Nous pensons qu'en structurant davantage votre texte et en rendant vos personnages plus accessibles, vous pourriez permettre au lecteur de mieux s'identifier à votre propos et de comprendre ce que vous souhaitez réellement communiquer. Votre projet est prometteur, mais certaines modifications nous semblent nécessaires. Nous vous remercions encore pour votre confiance et nous souhaitons plein de succès dans la suite de votre écriture. Bien à vous, la classe HLP2 du lycée Félix Esclangon.
Donc Léa et Clément, pour une dernière...
Alors, du coup, nous, on est de la classe HLP3 et nous allons présenter l'avis de notre groupe de manière un peu particulière parce que nous avons décidé de le faire suivant un dialogue théâtral entre l'éditeur et l'auteur. Avant que de commencer, nous tenons à préciser que tout ceci est une œuvre fictive de notre invention et qu'en aucun cas nous ne nous permettrions de parler pour l'éditeur ou pour l'auteur. Donc tout ce que nous allons dire reflète notre opinion à nous, celui de la classe, et non le leur.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Merci de vous être déplacé. Nous avons bien reçu votre tapuscrit, mais nous sommes dans l'impossibilité de le publier.
Mais pourquoi donc ?
Eh bien que certains éléments nous aient plu, d'autres nous laissent sceptiques.
Mais comme quoi, par exemple ?
Eh bien, on voit votre point de vue sur l'inclusivité, ce qui est admirable en soi. Mais l'utilisation intensive, voire excessive du pronom « il » commence à perdre le lecteur.
En vérité...
De plus, le ton de lecteur et l'ambiance générale sont trop morts, on voit un monotone. Cela peut ennuyer le lecteur et le faire se lasser facilement du livre.
J'entends, mais...
Et puis, il y a aussi la construction des personnages, et surtout celle des personnages secondaires, qui est entièrement à refaire.
Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes personnages?
Ils sont trop lisses. Il nous faut un panneau d'émotions plus important pour attirer le lecteur et le mettre en haleine. Vos personnages sont trop plats, pas assez profonds, ni assez complexes, ni assez... Il n'y a pas assez d'intérêt.
Pas assez complexe, mes personnages.
Oui, mais je parle même pas des sauts temporels. Ils m'ont perdu, madame.
Bon.
Ils m'ont entièrement...
J'entends ce que vous dites, monsieur. Et j'irai même jusqu'à dire que je comprends votre point de vue. Mais s'il vous plaît, laissez-moi une chance de défendre mon travail.
Très bien, surprenez-moi.
Bon, très bien, je vous remercie. Vous devez savoir premièrement que la situation des personnes trans me touche particulièrement. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai écrit ce livre. Mais je reconnais mes erreurs. Déjà, en ce qui concerne l'utilisation du pronom « iel », mon but était de le mettre suffisamment pour donner un style à mon livre, pour lui donner du corps, mais sans trop non plus en mettre, pour ne pas risquer de perdre le lecteur. Je vois que cela a échoué, qu'il est trop présent. Je suis bien évidemment disposée à en enlever quelques-uns. De plus, vous dites que mon livre a un ton monotone. Ce que j'ai voulu refléter, monsieur, ce n'était pas de la monotonie, mais de l'agacement. L'agacement, rendez-vous compte s'il vous plaît, l'agacement d'une personne qui est perdue, qui a mis du temps à s'accepter, a été mal dans sa peau, qui aujourd'hui s'accepte sa transsexualité, a commencé un parcours difficile, encore très tabou, et tout ce qu'elle arrive à faire, c'est de se faire humilier par des médecins gênants et incompréhensifs à chaque rendez-vous. Ce que j'essaie de faire, monsieur, c'est de transmettre l'émotion d'une personne pour qui chaque rendez-vous médical est un retour en arrière face à des médecins incompréhensifs.
Il est vrai que je ne l'avais pas compris de cette manière.
Bon, en ce qui concerne les personnages secondaires, je reconnais mon erreur. J'ai voulu à tout prix exploiter tout le potentiel du personnage principal et ce faisant, j'admets avoir négligé quelque peu les personnages secondaires et je m'engage à les retravailler.
Et en ce qui concerne les sauts temporels, vous en faites quoi?
Je ne souhaite pas les enlever. Je trouve qu'ils donnent du corps et du mouvement au récit. Mais s'ils vous dérangent, je peux en enlever quelques-uns et les clarifier en les réorganisant, par exemple.
Donc, vous admettez que vous êtes disposé à faire des changements?
S'il le faut, bien sûr.
Car même si nous avons abordé juste ici que les aspects négatifs, il est vrai que votre livre a des qualités surprenantes qui m'a bien surpris lors du récit.
Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a plu?
Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, le thème. J'aime que vous défendiez cette cause avec tant d'acharnement, avec tant d'assiduité.
Je vous remercie de l'avoir remarqué. Y a-t-il autre chose qui vous a plu?
La fin.
La fin?
La fin est magnifique. Elle apporte une conclusion parfaite. Elle est vibrante, poignante. C'est une fin idéale, parfaite même.
Waouh. Je suis très... Je
flatté,
ne sais pas quoi dire,
sais.
Je ne suis très, très flattée, oui. Je vous remercie pour cet éloge, ma foi grandiose.
Bien, après réflexion profonde et totalement raisonnable, j'ai décidé de revenir sur ma décision.
Oh.
J'accepte de publier votre ouvrage, à condition que vous fassiez des modifications dont nous avons parlé. Qu'en dites-vous, mademoiselle?
J'accepte.
Marché conclu.
Françoise, quelque chose de très bref et après on laissera passer.
Ah oui. Que dire après tout ça? Je confirme la fin. La fin est tout à fait à sa place. Moi, c'est un livre que j'éditerai parce que je lui trouve une structure intéressante, même s'il y a, on a écouté plein de petits, il y a toujours des à côté et je pense qu'il y a un travail fin à faire en plus. Mais entre la fin du premier chapitre et la fin du livre, je trouve qu'il y a une cohérence et ça tient le livre.
Notre éditeur.
Ah là là. Ouais. Ah ouais.
Vous avez perdu votre langue à chat?
Non. Mais je, comme vous, j'essaie de peser mes mots. Alors, moi, ce texte, il m'a, j'allais dire retourné, mais quelque chose de cet ordre-là, parce que, oui, c'est vrai, tout ça, il y a pas mal d'enjeux encore à travailler, peut-être, en tout cas, des questionnements autour de ce texte, mais de plusieurs natures. Des questionnements, peut-être, effectivement, par rapport à la façon dont l'intrigue peut être nouée, la manière dont on peut étoffer potentiellement certains personnages de cet ouvrage. Mais finalement, plutôt pour les questions qui nous sont posées à titre d'auteur, d'éditeur ou d'éditrice, de relecteur, de relectrice. Il y a quelque chose qui chamboule tout dans ce texte, où on va avoir effectivement ces enjeux avec les pronoms, mais aussi l'accord de proximité, les écritures inclusives. On se débrouille comment avec tout ça dans des formes littéraires aujourd'hui? Il y a des gens qui réfléchissent à ça, d'ailleurs, pour créer des typographies aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui doit entrer et dans l'oreille et dans l'œil. C'est ça, peut-être aussi, finalement, pour moi, une des grandes questions de ce texte et qui me questionne, moi, où est-ce que je me situe aujourd'hui dans le champ éditorial, dans le paysage? Qu'est-ce que j'accompagne? Quel risque je peux prendre là-dessus, si c'est intéressant ou pas? Ça nous regarde. Mais en tout cas, par rapport à vous, lecteurs, lectrices, et moi, en tant que lecteur, parce que finalement, ça commence par là. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi en lisant ce texte? Est-ce que j'ai accepté ça, finalement? Est-ce que je me suis même réjoui, potentiellement, de le lire et de me sentir peut-être évoluer à travers tout ça? J'ai trouvé que l'énorme pertinence de ce texte, pour moi, sur ce sujet, c'est que c'est un texte qui est construit sur la forme de dialogue. Ce sont des dialogues incessants. Et c'est finalement tout l'enjeu du narrateur, et peut-être même de sa bande d'amis, que d'entrer en dialogue. Ce sont des gens qui entrent en dialogue, qui cherchent le dialogue, qui cherchent à faire évoluer, à faire bouger les lignes, bouger les leurs, parce que là, on ne va pas entrer dans toute la complexité du récit, mais définitivement, c'est absolument non binaire. Et je trouve que ces choix-là sont des choix qui sont finalement assez assumés. Alors, qu'est-ce qu'on aura fait? Peut-être on a commenté deux, trois choses, comme vous l'avez fait si bien, tous les deux, quelque part. Mais je ne crois pas que je parle tout à fait comme ça, mais ça dépend. c'est par rapport à, en tout cas, à quelqu'un comme ça qui nous envoie ce texte. C'est très beau, ça, incroyable. Bravo d'avoir défendu. Parce que les premières questions qui se posent, c'est finalement, n'êtes-vous pas prêt ou prête à faire quelques changements? C'est, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien compris où vous vouliez en venir, encore une fois? Et c'est seulement à partir de cet instant-là qu'on peut se permettre, il me semble en tout cas, quelques remarques. Et on a formulé toutes les remarques, peut-être, qui ont été évoquées ici. Et effectivement, nous avons rencontré une personne qui est plutôt partie prenante de cet échange et d'avancer dans l'écriture de texte, de ce texte. Dans les aménagements de ce texte. Ça, c'est un texte, un premier roman, Alex Orlan, et qu'on a bien l'intention de présenter à la prochaine rentrée littéraire, parce que définitivement, en plus avec les enjeux politiques qui viennent de se passer, je ne vois pas d'autre moment que de manifester avec ce texte finalement tout l'engouement et tout le désir que l'on a de voir ce type d'écriture, en tout cas accepté, entendu, lu, débattu, générer peut-être des avis clivés, clivants, peu importe en fait, d'une manière ou d'une autre, ce qui m'importe là, c'est que là, on a un enjeu d'écriture, et on a aussi une personne qui est en mesure de porter son propos et qui, dans le sens du dialogue, qui est peut-être la chose qui, moi, m'importe le plus ici, puisque c'est aussi peut-être respecter l'ADN de cette maison, c'est qu'on peut questionner les lignes, mais définitivement plutôt dans la recherche d'un dialogue. Et donc, qui va vous demander, mais ça, vous le savez, vous, autant que moi, ces histoires de lecture... Finalement, pour rencontrer un texte, il faut accepter de se déplacer un tout petit peu. Donc, pour dialoguer avec quelqu'un et l'entendre, il faut au moins lui accorder l'oreille et puis accepter de se remettre en cause un chouïa. Il y a toujours un interstice possible quelque part. Il faut lui s'accorder cette chance plutôt que l'accorder à l'autre. Mais nous, l'accorder, c'est nous qui avons à bouger. Ce n'est pas toujours à l'autre de faire le déplacement vers nous, il me semble. Ça, c'est pour moi l'ADN de la maison et d'une forme de littérature, en tout cas, qui, moi, m'importe. Alors, merci, hein. Mais nous, on l'édite, celui-là, hein, en tout cas.
S'il y a des remarques dans le public ou si vous voulez poser des questions, est-ce que sinon, je me permets d'encore remercier pour leur engagement le lycée des métiers Louis-Martin Brette. avec leur professeur David Soulard et leur documentaliste Élodie Keller. L'école internationale PACA, la seconde, merci, avec leur professeur Philippe Joly. Le lycée Félix Esclangon, les deux premières HLP avec leurs deux professeurs, Théo Matisse et Isabelle Truchet. Et leur proviseur est venu les voir. Merci à elle. Et nous n'allons pas oublier, est-ce que j'ai oublié un lycée ? Bien sûr, nos invités, veuillez m'excuser, le lycée Alexandra Davinel, les premières ST2S avec leur professeur Elsa Audibert. Merci infiniment aussi à mes lectrices qui m'ont accompagnée, soutenue, qui sont allées dans les classes, alors pas celles de Digne, Françoise Rougier, Yvette Sias, Françoise Broyard et Christiane Padeloup. Car la littérature, c'est un partage, c'est aussi un partage intergénérationnel, c'est un partage autour d'un éditeur et vraiment, on vous remercie encore, vous, lecteurs de demain, d'avoir fait tout ce travail. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez, voilà, il y a encore quelques questions dans le public. Je sais que certains sont tenus par des obligations, donc je ne voudrais pas retenir. Bon, je crois que les lycéens, hélas, sont vraiment tenus par des horaires extrêmement précis. Voilà, ils ont faim et ils doivent retourner pour certains immédiatement dans leur lycée. Encore merci et bravo à vous.